Un très cordial bonsoir à chacun pour cette étude biblique. Comme je ne suis pas forcément connu de tous, vous avez entendu mon nom, Claude-Henri André. Avec mon épouse Francine, nous nous réunissons avec les frères et sœurs à l'Assemblée chrétienne d'Essertines-sur-Yverdon. Et on a annoncé que le confinement allait durer encore un moment, mais dès qu'il sera terminé, si vous passez dans la région, n'hésitez pas à nous rendre visite. Vous avez toutes les informations pour trouver notre adresse sur le site internet de l'Assemblée ac-essertines.ch. Ce soir, nous étudions donc le passage de 1 Samuel 14, versets 24 à 52, et je vous propose de lire à partir du verset 23, et en même temps, le texte va être affiché sur votre écran, mais je vous suggère d'avoir une Bible avec vous, parce que dans la suite de l'exposé, je ne vais pas relire chaque fois les versets. Alors, 1 Samuel 14, verset 23. « Et l'Éternel sauva Israël en ce jour-là, et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or, Saül avait adjuré le peuple, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir et jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Et entre tout le peuple, nul ne goûta de pain. Et tout le peuple du pays vint dans une forêt, et il y avait du miel sur le dessus des champs. Et le peuple entra dans la forêt, et voici du miel qui coulait. Mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Et Jonathan n'avait pas entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il avait à la main, et le trempa dans un rayon de miel, et ramena sa main à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Et quelqu'un du peuple répondit et dit, « Ton père a fait expressément jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain aujourd'hui. » Et le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux ont été éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Qu'eût-ce été si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé? Maintenant, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Et ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon, et le peuple fut très fatigué. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent du menu et du gros bétail, et des veaux, et ils les égorgèrent sur le sol, et le peuple les mangeait avec le sang. Et on le rapporta à Saül en disant, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et il dit, « Vous avez agi infidèlement, roulez à présent vers moi une grande pierre. » Et Saül dit, « Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur, amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez, et ne péchez pas contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. » Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main, et ils les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Et Saül dit, « Descendons de nuit après les Philistins et pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un homme de reste. » Et ils dirent, « Fais tout ce qui est bon à tes yeux. » Et le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül interrogea Dieu, « Descendrai-je après les Philistins et livreras-tu en la main d'Israël ?» Et il ne lui répondit pas ce jour-là. Et Saül dit, « Approchez ici, vous tous les principaux du peuple, et sachez et voyez comment ce péché est arrivé aujourd'hui. Car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était par Jonathan mon fils, il mourra certainement. » Et personne de tout le peuple ne lui répondit. Et il dit à tout Israël, « Vous, soyez d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre côté. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui est bon à tes yeux. » Et Saül dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Donne un sort parfait. » Et Jonathan et Saül furent pris, et le peuple échappa. Et Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut pris. Et Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan le lui déclara et dit, « Je n'ai que goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, et voici, je meurs. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourra-t-il? Qu'ainsi n'advienne, L'Éternel est vivant, s'il tombe à terre un des cheveux de sa tête, car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. Et le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut pas. Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Et Saül prit la royauté sur Israël, et il fit la guerre tout alentour contre tous ses ennemis, contre Moab, et contre les fils d'Ammon, et contre Édom, et contre les rois de Tsoba, et contre les Philistins, et partout où ils se tournaient, il les châtiait. Et il forma une armée et frappa Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Et les fils de Saül étaient Jonathan, et Jishvi, et Malkishua, et les noms de ses deux filles, le nom de l'aînée était Merab, et le nom de la plus jeune, Michal. Et le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimatz. Et le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Et Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Et la guerre fut forte contre les Philistins durant tous les jours de Saül. Et quand Saül voyait quelque homme fort et quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui. Tout ce chapitre 14 de 1 Samuel nous présente en fait la même histoire, et c'est comme une médaille avec deux faces. Du verset 1 au verset 23, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, la foi de Jonathan dans le combat donne la victoire. C'est ce que nous avait présenté Jean-Jacques Bourgeois. Et maintenant, dans les versets 24 à 52, on peut dire que la folie de Saül dans le combat réduit la portée de la victoire du peuple d'Israël contre les Philistins. Pour résumer un petit peu les événements, je rappelle, il y a donc trois lieux géographiques, enfin principalement deux lieux géographiques qui sont mentionnés. Il y a Guiba de Benjamin, qui est la ville natale de Saül, donc à cette époque-là, la ville royale, puisque Jérusalem n'était pas encore conquise et appartenait encore aux Jébusiens. Il y a Geba, qui est mentionné au début du chapitre et au chapitre 13. Et ensuite, il y a Micmash. Dans les personnes dont on parle dans ce chapitre, donc il y a Saül, qu'on voit assis sous son grenadier. Il y a Jonathan, qui va au combat seul avec son porteur d'armes. Il y a l'armée des Israélites, qui compte 600 soldats, qui attendent les ordres du roi. Et puis, de l'autre côté, il y a les Philistins. Alors, on ne sait pas si l'événement du chapitre 13 est le même qu'au chapitre 14. Mais au chapitre 13, il nous est dit qu'il y a 30 000 chars, 6 000 cavaliers et d'innombrables soldats. Jonathan, qui est impatient de combattre pour l'Éternel, va donc se mettre en route avec son porteur d'armes et attaquer un poste d'observation philistin dans la région. Dieu donne une victoire éclatante à Jonathan, et Saül n'y est pour rien, c'est répété dans le texte. Les Philistins sont saisis d'épouvante et commencent à s'entretuer. Le texte nous dit que la frayeur de Dieu est tombée sur les Philistins, ils savent plus où ils en sont. Les sentinelles israélites informent Saül qui lance son armée dans la bataille. Et à la fin de ce passage qu'on avait étudié la dernière fois, on voit que les traîtres hébreux qui travaillaient à ce moment-là pour les Philistins changent de camp. Et tous les timides qui s'étaient cachés dans les rochers, dans les cavernes, sortent de leurs cachettes et s'engagent dans le combat. Donc c'est vraiment une victoire sur tous les fronts au début de la journée. Et ce passage se termine par cette expression extraordinaire, « L'Éternel sauva Israël en ce jour-là ». Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est ce qu'on va donc étudier. Et au début, j'aimerais juste reprendre quelques cartes pour situer un petit peu les lieux géographiquement. Donc on voit dans ce carré, je donnerai une carte un peu plus agrandie après, le village actuel, c'est une colonie juive en Cisjordanie qui s'appelle Guiba Benyamin. Juste en face, on a un village palestinien qui s'appelle encore actuellement Mouramas. Et ces lieux se trouvent à 8,6 km de l'esplanade du Temple, mesurés sur Google Earth. Donc on est très proche de Jérusalem. Et si on regarde un peu plus près, voilà les lieux en question. Donc Guiba de Benjamin, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas des recherches archéologiques approfondies, c'est toujours un peu difficile d'assurer que les lieux sont bien à ces endroits-là. Et il se trouve que d'après les historiens, il n'y a pas encore eu beaucoup de recherches dans ces régions, puisque c'est occupé par les Palestiniens. Mais plusieurs pensent que c'est qu'on est vraiment dans les lieux cités dans la Bible. Donc Giba de Benjamin qui se trouve ici, en face, de l'autre côté de la vallée Mikmash, donc le nom actuel est Mouramas. Juste entre les deux, on a le village palestinien de Djaba, qui est Geba dans le récit biblique. Et puis, tout à gauche, le village ou la ville palestinienne qui s'appelle Al-Ram, qu'on pense être Rama, le village de Samuel. Donc, on voit que tout est situé dans une surface relativement restreinte. Et puis, en pointillé, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la route des patriarches. C'est, en d'autres termes, la route des crêtes, qui suit les crêtes des montagnes de Samarie et de Judée, depuis Hatzor jusqu'à Beersheba. Il faut savoir que ces montagnes sont traversées par des vallées avec des parois très abruptes, donc c'est impossible de traverser ailleurs que sur ce chemin des crêtes, ou alors il faut faire le détour par la vallée du Jourdain, tout à l'est, ou par la plaine côtière. Mais à l'époque, c'était d'une part marécageux et ensuite occupé par d'autres peuplades. Donc, on peut être sûr que Abraham, lorsqu'il traversait le pays, passait sur ce chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour aller du nord au sud dans le pays. Actuellement, si vous regardez une carte routière d'Israël, c'est la route numéro 60 qui va, elle, de Nazareth jusqu'à Beersheba. Ils n'ont pas été plus haut que Nazareth. À cet endroit, il y a une légère dépression du terrain, on va le voir dans la dia suivante, qui permet à la route de passer entre les deux vallées, et c'est ce qu'on appelle le passage de Mikmash, qui est cité dans 1 Samuel 13. Donc c'est évident que pour les Philistins, c'était important d'avoir un poste d'observation au passage de Mikmash, puisque c'était le seul chemin possible pour les troupes du nord du pays. Si elles voulaient venir à la rescousse de Saül, elles devaient forcément passer par cette route. Donc, d'où l'intérêt pour les Philistins d'établir ce poste à cet endroit et d'où l'intérêt de Jonathan d'attaquer ce même poste. Voilà, je me suis un peu amusé avec Google Earth à montrer un petit peu les coupes de terrain entre Giba de Benjamin et Mikmash. On voit cette profonde vallée qui circule entre les deux. La vallée remonte et à cet endroit où passe de nouveau cette route des patriarches, le dénivelé est beaucoup plus faible. Mais en réalité, cette photo en 3D n'est pas tout à fait ce qu'est la réalité, parce que si vous regardez des images de cette vallée, vous voyez que c'est beaucoup plus abrupt que ça n'en a l'air sur la photo de Google Earth. Encore juste un autre détail, la dernière carte que je vous montre. Donc cette vallée qui se trouve ici, Giba de Benjamin, au début du chapitre 14, il nous est dit que Saül se tenait à l'extrémité de Giba, donc peut-être dans cette région-là, un plateau, et faisait face en fait à un autre plateau où devait se trouver l'armée des Philistins. On a environ 1000-1200 mètres entre les deux. Ce plateau du côté de Giba est légèrement plus haut, donc on comprend tout à fait que les sentinelles de Saül ont pu voir ce qui se passait dans le camp lorsque la frayeur de Dieu est tombée sur les Philistins. On commence notre passage avec cette phrase à première vue normale dans un temps de guerre et de course-poursuite. Les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. On pourrait penser que c'est normal puisqu'ils ont dû courir dans les montagnes en train de pourchasser les Philistins. Mais en réalité, le verset continue en nous expliquant quelle était la véritable raison de cet accablement ou de cette fatigue extrême des soldats de Saül. Saül voulait gagner rapidement cette guerre. Il était assis pendant que Jonathan menait l'attaque, mais cette fois il veut reprendre le dessus, il veut être le chef de l'armée, montrer que c'est lui qui combat pour libérer son peuple. Il veut rapidement gagner cette bataille, et pour gagner rapidement, il donne cet ordre de ne pas manger à ses soldats pour partir plus rapidement. C'est pas un jeûne comme certains pourraient le penser, parce qu'il n'y a aucune notion dans ce passage de repentance ou de prière ou de désir de rechercher la face de l'Éternel, mais c'est simplement un ordre pour aller plus vite, mais un ordre qui est insensé dans ces conditions-là. Quand on remarque aussi la suite du verset, je relis peut-être le verset 24, « Les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or, Saül avait adjuré le peuple, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir et jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Dans cette partie de phrase, ce qui est intéressant de voir, c'est que le roi Saül se met au-dessus de toute chose. C'est lui, il se considère comme l'autorité suprême au-dessus du peuple. Il considère que c'est sa guerre à lui. Il considère que c'est lui qui veut aller au combat. C'est lui qui veut vaincre les Philistins. Ce sont ses ennemis. Il le dit clairement dans cette phrase qui est mentionnée dans le texte biblique. Et il oublie en fait que l'autorité suprême sur Israël, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui règne dans les cieux. Lui, le roi Saül, il n'est que prince régent sur la terre. C'est Dieu qui reste le maître de toutes choses pour le peuple d'Israël. Mais pour Saül, il a oublié cette notion et il se considère lui-même comme étant l'autorité suprême. On voit quelque chose de complètement différent avec David. Et si on cite simplement le passage où David rencontre Goliath, juste quand il commence à entendre Goliath qui déverse des insanités sur le peuple d'Israël, David a ces mots, « Qui est cet incirconcis qui ose outrager les troupes rangées du Dieu vivant ?» David ne dit pas les troupes rangées du roi Saül, il dit bien les troupes rangées du Dieu vivant. Donc on voit bien dans la manière de s'exprimer de David, et il le répète à nombreuses reprises plus tard, pour lui, les ennemis d'Israël, ce sont les ennemis de Dieu avant toute chose. Mais pour Saül, ce n'est pas ainsi qu'il voit les choses. À cause de cet ordre stupide de la part de Saül, les Israélites sont épuisés dans les combats, la course-poursuite, le manque de nourriture, les contraint à ralentir le pas. Donc on voit que ce premier ordre, cet ordre qu'il a donné, en fait, a provoqué une limitation de la belle victoire que Dieu avait donnée à Jonathan. Et Saül est en train de contrecarrer, en fait, cette victoire. On peut aussi rajouter que jamais Dieu ne demande de maudire un homme pour avoir mangé du pain avant un gros effort. Chaque fois, Dieu agit avec compassion et chaque fois, il encourage les hommes par la nourriture avant un gros effort. Jamais il va condamner les hommes de cette manière-là. Un texte que j'ai trouvé dans un livre de Monsieur Henri Rossier qui résume bien cette situation, tandis que la victoire de Jonathan rassemble les transfuges d'Israël, au verset 21, les séparant du monde auquel ils étaient asservis, c'est-à-dire les Philistins, pour en faire des soldats dans la cause de Dieu, tandis qu'elle encourage à la poursuite de l'ennemi les timides dont les cœurs ont été rassurés, le roi, auquel manquent les éléments mêmes de la relation avec Dieu, ne sait faire autre chose que d'établir une ordonnance charnelle qui prive le peuple de Dieu d'une bonne part de sa force. Et voilà que dans cette course-poursuite, le peuple arrive dans une forêt. Chose extraordinaire, il y a du miel sur le sol. J'ai jamais vu ça dans une forêt chez nous, mais à ce moment-là, dans cette forêt-là, la récolte de miel avait été abondante et le miel coulait sur le sol au point de former des petits agrégats de miel partout. On peut dire que Dieu, quelque part, a compassion de ses soldats affamés. Dans sa grâce, Dieu offre gratuitement cette nourriture qui est la meilleure. On sait que de nos jours, encore quand on fait une course de montagne ou un effort particulier, on aime bien manger une barre de céréales constituée notamment de miel. Donc c'est quelque chose qu'on a conservé, en tout cas de la Bible. Il aurait fallu qu'on conserve autre chose que ça, mais c'est déjà une preuve que Dieu, dans sa grâce, donne quelque chose de magnifique pour ses soldats. Le miel coule sur le sol, il offre cette nourriture, mais en offrant cette nourriture, Dieu met en lumière aussi la folie de l'ordre de Saül. Il montre par là que, quelque part, il désapprouve totalement cet ordre de Saül. Mais malheureusement, personne ne profite de ce miel par peur de l'ordre du roi. Personne, sauf Jonathan, comme on va le voir plus loin. peut-être intéressant de rappeler que 500 ans plus tôt, Dieu avait dit à Moïse, « Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel. » Et un peu plus tard, les espions avaient confirmé à Moïse, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. » Et bien, ce que les espions avaient vu, ce que Dieu avait dit, c'est littéralement déroulé pour ces soldats de Saül qui étaient en manque de nourriture. Dieu a toujours eu compassion de son peuple et il continue de le montrer. On peut peut-être faire une petite application spirituelle pour nous par rapport à cette nourriture qui est donnée ainsi gratuitement aux soldats, mais pour nous, nous avons aussi une nourriture qui nous est donnée par Dieu, une nourriture spirituelle au travers de la Bible. Dieu se révèle à l'homme par cette parole écrite qu'il a conservée au travers des âges. Il se révèle à l'homme aussi par cette parole incarnée, notre Seigneur Jésus. Et sans cette double révélation, nous serions dans l'incapacité de connaître Dieu, dans l'ignorance totale de son existence. Mais il a eu compassion de nous, qu'il nous a donné cette nourriture. Dans cette parole, il nous parle de lui, de la relation qu'il souhaite avec l'homme, de son amour, du plan de salut pour nous sauver, de ses promesses concernant notre futur, beaucoup de choses qui nous révèlent sa personnalité, ses attributs, sa bonté, son amour parfait. Qu'est-ce que nous faisons de cette nourriture? Quelle attitude avons-nous par rapport à la Bible? Est-ce que nous la recevons avec reconnaissance? Ce sont des questions qu'on peut se poser personnellement. Sachant que l'ennemi de nos âmes nous donne un très très bon conseil pour lui, ne touche surtout pas à cette nourriture, c'est très dangereux. C'est vrai que c'est très dangereux pour lui, pas pour nous. D'autres nous disent, attention, c'est de la nourriture périmée, c'est un texte qui a été écrit il y a longtemps, ça ne nous concerne plus, c'était une autre culture, une autre façon de vivre. D'autres encore nous disent, et ça c'est, on entend malheureusement, souvent dans certaines églises, écoute, j'ai reçu une nouvelle révélation par l'Esprit, ne t'occupe pas de ce vieux livre, écoute ma révélation. Toutes les choses qu'on peut entendre autour de nous, mais quelle est notre attitude par rapport à cette nourriture que le Seigneur Jésus, que Dieu, nous offre gratuitement. Et versets 27 à 30, on a cet épisode où Jonathan arrive lui aussi dans cette forêt. Lui aussi est épuisé, mais lui, il est épuisé pour une autre raison. Lui, il est en combat depuis longtemps. Il a déjà commencé le combat en attaquant le groupe d'observation des Philistins. Ensuite, il a rejoint l'armée, il a continué de courir, de mener le combat. C'est vrai qu'il est fatigué, mais il n'est pas fatigué parce qu'il a obéi à l'ordre de son père. Il est fatigué simplement parce qu'il a fait énormément d'efforts. Le texte nous dit « sa vision se trouble ». C'est ce qu'on appelle en langage moderne l'hypoglycémie. C'est ce qui peut nous arriver aussi. Et on sait bien que pour combattre ce mal, eh bien, du miel peut faire l'affaire parfaitement bien. Alors Jonathan voit ce miel par terre. Il en ramasse avec la pointe de son bâton, comme s'il était pressé de continuer le combat. Il prend juste ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Ça nous rappelle un peu cet épisode avec les soldats de Gédéon, qui avait été trié, et Gédéon avait pris seulement ceux qui traversaient le ruisseau en prenant l'eau dans leurs mains sans s'arrêter. Il en était resté 300. C'est un petit peu cette attitude de foi qu'on rencontre aussi avec Jonathan. Il part au combat, sachant que Dieu est avec lui. Jonathan reprend immédiatement des forces, et c'est là qu'un soldat l'informe de cet ordre que son père a donné. Et Jonathan désapprouve énergiquement cet ordre qui limite la victoire. Il le dit dans le texte, « Qu'eût été si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé? Maintenant, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Et il affirme en plus, « Mon père a troublé le pays. » Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans un commentaire, c'est quelqu'un qui relevait le fait que le verbe « troubler » se dit « akar » en hébreu. Et puis Akar, on le trouve deux fois, on trouve deux noms dans la Bible dont la racine vient du même verbe. La première fois, il s'agit En fait, les deux noms sont liés à la même histoire. Il s'agit en fait d'Achan, ce soldat israélite qui avait volé des marchandises précieuses lors de la destruction de Jéricho et qui les avait cachées dans sa tente. Et Achan vient de ce même verbe, le nom de Achan vient de ce même verbe, troublé. Et ce qui est frappant, c'est que Josué a donc condamné cet homme qui a été tué. Et l'endroit où il a été tué, c'est la vallée d'Achor, de nouveau, vallée du trouble. Si vous regardez dans la version d'Arbi en note, pour la vallée d'Achor, c'est marqué la vallée du trouble. Donc c'est intéressant de voir que cet épisode s'est passé tout près de Michmash, un peu plus au nord. Mais je ne sais pas si Jonathan avait cet épisode en tête lorsqu'il a qualifié son père, mais c'est quand même assez frappant de voir Jonathan qui dit « Mon père a troublé le pays » et de voir aussi que Josué avait dit à Achan « Comme tu nous as troublé, l'Éternel te troublera en ce jour. » Mais malgré ce témoignage frappant de la part de Jonathan, les soldats refusent toujours de manger du miel. De nouveau, quelques questions qu'on pourrait se poser par rapport à cet épisode. Est-ce que ça nous arrive de nous priver de la parole de Dieu? Est-ce que ça peut nous arriver parfois que nous soyons en état d'hypoglycémie spirituelle, en manque de nourriture spirituelle? Est-ce que cette parole de Dieu nous fait envie? Est-ce qu'on a envie de la manger, de s'en nourrir? Est-ce que nous profitons de cette nourriture gratuite? Est-ce que nous l'absorbons pour nous fortifier dans la marche chrétienne? Est-ce que, comme Jonathan, cette parole éclaircit notre chemin, nous montre où on peut aller, comment on peut marcher, comment on peut avancer, comment on peut traverser les différentes épreuves qui sont sur notre chemin? Est-ce que nous la mangeons pour mieux connaître Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes comme les soldats de Saül, on préfère écouter une autre voix? C'est pourtant avec cette nourriture qu'on peut se préparer à servir notre Père céleste. Un psaume qui peut résumer aussi ce passage, psaume 19, versets 7 à 11. « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant sages les sots. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité, justes tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel et que ce qui distille des rayons de miel. Aussi, ton serviteur est instruit par eux. Il y a un grand salaire à les garder. » C'est un psaume de David. Je ne sais pas si David, lorsqu'il a écrit ce psaume, s'est inspiré de l'expérience de Jonathan. On sait que David et Jonathan étaient très proches dans leur amitié. C'est possible. Bon, le texte biblique ne le dit pas. On peut le supposer. Mais ce qui est sûr, c'est que Saül aurait bien mérité de lire ce texte, s'il avait existé avant, pour que de ce il devienne sage. Dans les versets 31 à 34, on arrive un petit peu à la fin de la course-poursuite. Le verset 31 nous dit « Ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon, et le peuple fut très fatigué. » J'ai juste de nouveau mis une carte pour situer un petit peu la course-poursuite. Donc on a ici Michmash, le début de la bataille. On a ici approximativement la vallée d'Ajalon. Et vous voyez qu'entre les deux, 25 km de collines où il faut courir, sauter par-dessus les cailloux, poursuivre les Philistins, se battre. 25 km dans ces conditions-là, c'est clair que ça fatigue. On serait fatigué avec beaucoup moins. Mais de nouveau, on se rappelle que cette course n'était pas seulement la seule raison de leur fatigue, c'était toujours l'ordre du roi Saül qui les avait empêchés de se nourrir avant de démarrer la bataille. Juste un petit détail, la vallée d'Ajalon, c'est la vallée en fait qui descend de Jérusalem en direction de Tel Aviv, c'est la route numéro 1 pour ceux qui sont allés en Israël, qui traverse cette vallée au pied des montagnes de Judée. Si on compare l'autre épisode de la Bible où il y a aussi eu une bataille dans la région d'Ajalon, c'était avec Josué, on voit une différence assez frappante. Avec Josué, le peuple était en pleine forme à Ajalon et ils ont continué à combattre les Amoréens. Avec Saül, le peuple est exténué et affamé dans cette même vallée. Si on regarde, si on se réfère à ce passage dans Josué 10, c'est intéressant de relever certains passages, certains éléments. Tout d'abord au verset, donc Josué 10, au verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas. On voit qu'il y a une conversation entre l'Éternel et Josué, et l'Éternel affirme, ne les crains pas. Au verset 12, il est dit, Josué parla à l'Éternel. En fait, lorsqu'il a parlé à l'Éternel, c'est là où il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Au verset 14, il nous est dit, l'Éternel écouta la voix d'un homme. Et puis, un peu plus loin, au verset 19, Josué dit à ses soldats, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, frappez-les, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en votre main. On voit une situation totalement différente avec Josué. Là, les soldats sont aptes à combattre, ils sont encouragés à ne pas s'arrêter, à aller jusqu'au bout, et effectivement, ils vont avoir une grande victoire contre les Amoréens, alors qu'avec Saül, le peuple est exténué, fatigué, et ils sont obligés de faire une pause dans la poursuite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est exténué, on est affamé? On n'a plus les idées vraiment en place. On sait que la nourriture, la boisson, en fait, ou plutôt la faim et la soif font partie des besoins vitaux à satisfaire pour les êtres humains. C'est les choses les plus importantes. Et quand on est affamé à ce point, on n'a plus vraiment la capacité de réfléchir de manière concrète. Et ce qui se passe par la suite, à cause de cette incapacité du peuple de remettre la situation en perspective, le peuple va pécher contre Dieu en mangeant la viande avec du sang, en égorgeant les animaux à même le sol. Donc la viande trempe dans le sol, ils la cuisent de cette manière-là. C'est totalement contraire à ce que nous dit la parole de Dieu en Lévitique 17. Et en Lévitique 17, peut-être rappeler quand même, lorsque Dieu en parle au travers de Moïse, il dit, Lévitique 17, verset 10, « Quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre celui qui aura mangé du sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie est dans le sang. » Donc, dans la loi que Dieu donne, Dieu se retourne contre celui qui mange la viande avec le sang et il le met à mort. Heureusement, c'est pas ce qui se passe. Heureusement pour les soldats de Saül, Dieu, dans sa compassion, ne met pas son jugement en application à ce moment-là. Mais malgré tout, ils ont commis un péché extrêmement grave contre Dieu. On informe le roi. Le roi se rend compte que la situation a complètement dérapé. On voit que le roi Saül, malgré tout ce qu'on peut dire contre lui, il a quand même une certaine connaissance de la Bible, de la loi, pour ce qu'il avait à cette époque-là, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Il a une connaissance qu'il faut mettre en application cette loi, sauf qu'il le fait plus facilement, il demande plus facilement aux autres de la mettre en application qu'à lui-même. Et ce qui est frappant aussi, c'est de la manière dont il parle au peuple et il dit « Vous avez agi infidèlement, roulez à présent vers moi une grande pierre ». Le mot « infidèlement » est un peu faible quand on considère ce que Dieu a dit par rapport à sa loi. C'était vraiment un péché extrêmement grave et Saül le minimise en parlant d'infidélité. La peur de parler de ce qu'est réellement le péché devant Dieu. On voit que dans cette situation, finalement, la crainte du roi a fait oublier la crainte de Dieu. Les soldats ont eu peur du roi, mais tellement peur qu'ils ont oublié d'avoir peur de Dieu. Ils se sont mis dans une situation terrible. on voit aussi que dans sa manière d'agir, Saül est toujours en train de culpabiliser le peuple, mais jamais il prend conscience qu'il est à l'origine de cette situation. Verset 35, un verset très court, étonnant, là au milieu de cette orgie de viande, on voit « Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. » L'auteur biblique aurait même pu rajouter « c'était aussi le dernier autel bâti par Saül. » C'est bâtir un autel dans l'Ancien Testament, c'était montrer un désir d'honorer, d'adorer Dieu, une reconnaissance dans ce que Dieu avait fait pour la personne. Les patriarches en ont souvent bâti, Abraham notamment, Moïse en a bâti, Josué, Samuel, beaucoup ont bâti des autels à différents endroits pour honorer Dieu, pour rendre culte à Dieu. Mais ici, on se demande ce que cet autel vient faire dans cette gabegie. Est-ce que c'est un signe religieux de la part de Saül? Est-ce qu'il veut manifester qu'il a quand même une certaine conscience de l'existence de Dieu? Difficile de dire, le texte dit pas grand-chose. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que sur cet autel, il n'y a pas de sacrifice. Alors c'est vrai que Samuel n'a pas pu suivre la course à l'âge qu'il avait, il a dû rester en arrière, mais par contre, on sait qu'avec Saül, il y a un sacrificateur, puisqu'il est mentionné au verset suivant. Donc, il aurait pu y avoir un sacrifice à cet endroit-là, mais il n'y a rien du tout. Et on se demande pourquoi cet autel a été bâti à ce moment-là, alors que le peuple avait péché de manière si grave. Saül s'attarde pas beaucoup devant l'autel. On voit que immédiatement, le verset qui suit, Saül encourage ses soldats à continuer la lutte. Il leur dit « Descendons de nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, n'en laissons pas un homme de reste. » Il veut immédiatement repartir au combat, toujours sans Dieu. Dieu n'est pas dans son agenda. Il ne veut. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend le commandement de l'armée, c'est lui qui avance, c'est lui qui veut montrer la route. Il veut une grande victoire, il veut laisser son nom pour l'histoire qui viendra plus tard. Il aimerait bien que son nom soit marqué au bas de cette page historique et il veut combattre pour lui-même. Voilà que le sacrificateur rappelle le roi à l'ordre, en disant « Approchons-nous ici de Dieu ». Alors rapidement, Saül pose la question à Dieu, question très courte, « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu en la main d'Israël ?» Il avait déjà tout décidé, mais enfin il pose quand même la question à Dieu pour la bonne forme. Et voilà qu'il n'y a pas de réponse de Dieu. Alors là, Saül a dû se sentir un peu mal devant ses soldats, devant le sacrificateur, mais il n'y a aucune réponse de la part de Dieu. Alors pour Saül, ça fait pas de doute. Lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais rien fait de mal. Donc, si Dieu répond pas, c'est qu'il y a un péché dans le peuple, chez les autres. Mais il sait encore pas chez qui, mais en tout cas pas chez lui. Nous, on sait, le seul péché que le peuple a vraiment commis, il est mentionné quelques versets plus haut, c'est qu'ils ont mangé de la viande avec du sang. Mais étonnamment, Saül cherche autre chose. Il a en tête il se pose une autre question, en fait. Et Saül semble se méfier du peuple et même de son fils Jonathan dans la manière dont il pose les questions. On sait dans les chapitres suivants que Saül va devenir de plus en plus paranoïaque au point de voir des gens qui lui en veulent la mort de tous les côtés. David en fera les frais, d'ailleurs. Et on voit que ça commence déjà à ce moment-là. On peut aussi remarquer que Saül fait une très mauvaise interprétation de la situation au verset 39. « Car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était par Jonathan mon fils, il mourra certainement. » Dans cette petite phrase, « L'Éternel qui a sauvé Israël est vivant. » Donc implicitement, il reconnaît quand même que l'Éternel est pour quelque chose dans la victoire du jour. Mais on sait aussi, par ailleurs, et Saül doit certainement le savoir. Il savait déjà que Jonathan avait attaqué le poste des Philistins pour débuter la victoire le matin même. Il sait aussi comment son fils s'est comporté tout au long de la journée. Donc, si l'Éternel a sauvé Israël, c'est que forcément l'Éternel était aussi avec Jonathan. On peut quand même se poser la question, comment est-ce que Jonathan pourrait être coupable d'un péché alors que manifestement l'Éternel a accompagné Jonathan tout au long de la journée. Enfin, ça touche pas tellement la conscience de Saül, et il demande de tirer au sort pour savoir qui est le coupable. Premier tirage au sort, c'est étonnant ces tirages au sort. On en voit plusieurs dans l'Ancien Testament, on en voit même un dans le Nouveau Testament lorsqu'il a fallu choisir le disciple qui allait remplacer Judas. C'est des choses qu'on a de la peine un petit peu à comprendre, surtout que la Bible ne parle pas beaucoup de la manière de faire de ces tirages au sort. Mais voilà, elle le mentionne, donc on va le prendre comme il est dit. Premier tirage au sort, Samuel demande à Dieu, donne un sort parfait. Ça, c'est une bonne façon de commencer un tirage au sort. Demander à Dieu de faire sortir la vérité. Premier tirage au sort, le peuple échappe. Ça n'a pas dû faire plaisir à Saül de voir qu'une grande partie du peuple était hors d'atteinte de sa colère. Alors il demande un deuxième tirage au sort, cette fois entre lui et Jonathan. Et étonnamment, c'est l'innocent qui est choisi comme coupable. Alors on pourrait se poser la question quand même à ce niveau-là. Si on connaissait pas la suite de l'histoire, on pourrait se demander, mais est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'il n'a pas donné un sort parfait? Comment est-ce qu'il choisit Jonathan comme coupable alors que manifestement, il n'a jamais été coupable contre Dieu? Ça nous montre, quand on voit la suite de l'histoire, ça nous montre de quelle manière, en fait, Dieu gère parfaitement la situation des hommes. Rien ne lui échappe, il gère tout, tout se passe exactement selon son propos. Mais le problème, c'est que pour Jonathan, lui, il ne le sait pas. Il est dans une situation assez inconfortable, il sait que la condamnation pour lui, c'est la mort. Il doit se demander quand même qu'est-ce qui se passe pour lui. Comment ça se fait que j'ai été choisi comme coupable? Alors, Saül pose la question à son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Et Jonathan confesse avoir mangé un peu de miel au bout de son bâton. Donc, manifestement, c'était une très petite quantité de miel. Il admet avoir péché contre l'ordre de Saül. C'est étonnant de voir cette réaction toute simple, digne, très digne de la part de Jonathan. Elle est empreinte de soumission. Il accepte le verdict du roi, il est prêt à mourir alors même qu'il sait qu'il est innocent. En contraste, la réaction de Saül est empreinte de colère contre son fils. Aucune pitié, il a trouvé son coupable, il est content, il va enfin pouvoir régler ce cas qui le gêne depuis le début. Pour nous, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on réagit dans l'épreuve? Est-ce que nous sommes sereins comme Jonathan? C'est toujours difficile de poser ce genre de questions quand on n'a pas de problème particulier. Je m'en excuse auprès de ceux qui vivent ou qui traversent des situations d'épreuves importantes. C'est vrai que comment est-ce qu'on réagit? On ne peut jamais le savoir. On peut simplement regarder ce que Jonathan a fait. On peut peut-être prendre exemple sur Jonathan qui prend confiance en Dieu. Si nous sommes conscients que Dieu dirige toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, alors on pourra être réconforté malgré les situations difficiles qu'on peut traverser. Même quand on ne comprend pas la situation, au même titre que Jonathan qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais voilà, comme je l'ai dit, Dieu intervient, Dieu contrôle toutes choses et c'est par la bouche du peuple que l'intervention va se faire. Le peuple refuse catégoriquement la sentence du roi. Pour le peuple, c'est absolument évident que la victoire est venue de Dieu par Jonathan. Ils le disent dans leur expression. Et le peuple dit à Saül, « Jonathan qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourra-t-il ? Qu'ainsi n'advienne, l'Éternel est vivant s'il tombe à terre un seul cheveu de sa tête, car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. » Et la conséquence de cette rébellion, c'est que Saül se tait. Jonathan avait bien violé l'ordre du roi, mais il n'a jamais violé la volonté de Dieu, donc il ne peut pas mourir. Et c'est ainsi que Dieu va sauver Jonathan par la voix du peuple. Le verset 46, « Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. » Contrairement à ce qui s'était passé avec Josué, où Josué avait encouragé ses troupes à combattre contre les Amoréens pour les empêcher de rentrer chez eux, là, Saül capitule, il remonte chez lui, il rentre à la maison et les Philistins peuvent tranquillement rentrer chez eux pour reprendre des forces et pour continuer la guerre contre Saül. Saül a imposé un ordre stupide, il a passé beaucoup de temps à chercher un faux coupable qui avait mangé du miel. Sa préoccupation pour trouver ce coupable était tellement importante qu'il oublie même le but de la bataille. Il passe à côté d'une immense victoire. Les ennemis d'Israël peuvent reprendre des forces en s'enfuyant chez eux. Voilà la conséquence de cet ordre stupide de la part de Saül. Au verset 47, il nous est dit que Saül prit la royauté sur Israël. C'est peut-être un peu étonnant de lire cette phrase puisqu'il est déjà roi. On peut simplement rappeler que son établissement de roi s'est fait en 4 étapes. Il y a eu tout d'abord, il a été oint en secret par Samuel sur l'ordre de Dieu au chapitre 10. Au début du chapitre 10, il a été choisi comme roi par tirage au sort devant le peuple au verset 21 du chapitre 10. Ensuite, on voit qu'il a été établi ou couronné roi par Samuel devant Dieu et devant le peuple à Gilgal au chapitre 11. Et maintenant, cette expression « prit la royauté sur Israël », c'est simplement qu'il manifeste pratiquement son autorité de roi sur tout le pays en combattant les ennemis d'Israël. Et ces ennemis sont mentionnés dans la suite du verset. On voit que malgré tous les défauts de Saül, Saül fait quand même en partie la volonté de Dieu en combattant les ennemis d'Israël. Saül est même très actif. Il nous est dit que partout où il se tournait, il châtiait les ennemis du peuple à la fin du verset 47. Mais malgré la désobéissance de Saül, Dieu, dans sa grâce, permet une certaine prospérité du peuple, du pays, durant son règne. Alors voilà une petite carte du royaume d'Israël, avec les ennemis, juste pour situer. On se rappelle un petit peu où sont ces différents peuples. On a tout d'abord les Philistins dans la bande de Gaza, le royaume d'Édom dans le Negev, dans le sud, le royaume de Moab, d'Ammon, qui sont dans la Jordanie actuelle, et les royaumes araméens qui étaient au nord d'Israël. Il nous est dit qu'il est monté jusqu'à Tsoba. Tsoba, c'est encore à 100 km au nord de Damas. C'est aux portes de la ville de Homs, dont on parle souvent actuellement dans les journaux. Et puis, il y avait encore les Phéniciens. Et étonnamment, 3000 ans plus tard, rien n'a changé. Les ennemis d'Israël sont toujours dans les mêmes régions. Dans le dernier verset, il nous est dit « La guerre fut forte contre les Philistins durant tous les jours de Saül. » Il avait laissé échapper l'armée des Philistins, il les a laissés reprendre des forces, et tout au long de son règne, il a dû combattre contre les Philistins, et à la fin, c'est même les Philistins qui vont le tuer, ou qui vont tuer ses fils, et qui vont le blesser gravement, au point que lui-même va s'enlever la vie. Donc, c'est dans cette dernière bataille dans le nord d'Israël, contre les Philistins, que Saül va terminer son règne. Il va combattre tous les ennemis, mais sans jamais les vaincre. Saül ne sera jamais en paix durant tout son règne. Et la dernière partie du verset nous dit « Quand Saül voyait quelque homme fort et quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui. » C'est intéressant de voir la comparaison avec David. Saül a beaucoup de peine à fédérer des hommes forts autour de lui. C'est lui-même qui doit les recruter, c'est lui-même qui doit observer où sont les hommes forts et les prendre chez lui. Alors qu'avec David, les soldats de David étaient volontaires pour le servir. Toute la différence entre Saül et David. En définitive, Saül n'a pas d'efficacité dans son service de roi parce qu'il désobéit et ne se soumet pas à Dieu. Alors on a étudié un passage de l'Ancien Testament. C'est toujours intéressant de revenir à ce verset de 1 Corinthiens 10. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint, ainsi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Alors voilà, on a étudié ce texte. Est-ce que ce texte peut vouloir nous dire quelque chose aujourd'hui, au XXIe siècle, 3000 ans plus tard? Une courte comparaison, tout d'abord, entre Saül et Jonathan. On l'a vu, Saül agit pour son propre compte, il combat ses propres ennemis, il compte sur lui-même, Il désobéit à Dieu, il est mené par son orgueil, il donne des ordres stupides et il est assis. Si on compare avec Jonathan, il agit pour le compte de Dieu, il combat les ennemis de Dieu, il marche par la foi, il obéit à Dieu, il est caractérisé par sa soumission, il a des paroles de sagesse et il est actif. Toute une différence entre le Père et le Fils. Si on veut prendre ces points particuliers de ces deux hommes, c'est clair qu'on aimerait plutôt ressembler à Jonathan qu'à Saül. C'est comme quand on étudie les sept églises de l'Apocalypse, on préfère ressembler à Philadelphie qu'aux autres églises. C'est assez naturel, humainement parlant. Mais si on regarde notre propre vie, est-ce que vraiment on est tous les jours comme Jonathan? Est-ce que vraiment tous les jours on agit de la même manière que Jonathan? Ou bien est-ce que on est souvent aussi du côté de Saül, dans notre manière d'être de croyant, de chrétien, dans nos caractères, dans nos décisions, dans notre manière de nous comporter, dans le cheminement jour après jour? De quel côté est-ce qu'on balance? Peut-être des deux, d'une manière ou d'une autre, mais on est appelé à pencher de plus en plus, non pas du côté de Jonathan, qui est un bon exemple pour nous, mais de l'exemple suprême pour nous, le Seigneur Jésus, à lui ressembler chaque jour un peu plus. Si on reprend aussi la conduite de Saül dans cet épisode, Saül se voit comme l'autorité suprême en Israël. Dieu n'a pas sa place. Il considère ses ordres comme équivalents à la loi de Dieu. Il se considère comme étant le seul en charge du peuple. Il observe consciencieusement les rituels de la loi tout en refusant l'autorité de Dieu. Il utilise Dieu pour que sa propre volonté soit faite, au lieu de se laisser utiliser par Dieu pour que la volonté divine se fasse au travers de lui. Il prend de mauvaises décisions, il manque de sagesse, et le résultat, son orgueil et sa désobéissance le conduisent dans la confusion et son efficacité est grandement limitée. On se rappelle cette nuit passée dans la vallée d'Ajalon, c'était la confusion la plus totale. Alors c'est vrai que quand on lit les commentaires, on est souvent assez critique par rapport à Saül, surtout quand on compare avec David qui a suivi. Bon, des fois on est un petit peu trop critique parce qu'on applique le Nouveau Testament au roi Saül, alors que lui n'avait connaissance que des cinq premiers livres de la Bible. Je ne sais pas comment on se comporterait si on n'avait que la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Quand on a un moment de blues, quand on a un moment de difficulté, est-ce que vous allez directement lire un passage dans le Lévitique ou dans le Deutéronome? Je pense que vous préférez plutôt comme moi partir dans les Épîtres, dans les Évangiles, pour trouver une certaine consolation. Mais pour Saül, c'est tout ce qu'il avait en fait à sa disposition, les cinq livres de Moïse. Donc on devrait peut-être des fois être un petit peu moins critique par rapport à Saül. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on manifeste quand même souvent dans notre vie des caractères qui sont illustrés par Saül. Alors si on vit des fois dans une certaine confusion dans notre vie chrétienne, on pourrait peut-être se poser les questions suivantes, qui sont reprises en fait des faits marquants de Saül que j'avais mentionné dans la dia précédente. Et ces questions sont les suivantes. Mon autorité remplace-t-elle celle de Dieu dans ma famille ou dans l'assemblée? Comment est-ce que je me vois dans la place où Dieu m'a mis? Est-ce que je suis un chef autoritaire? Est-ce que je veux imposer mon avis sans tenir compte de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que je vois mon opinion comme étant équivalente à la parole de Dieu? On sait très bien que quand on met deux chrétiens, deux croyants ensemble, ça fait pas long qu'ils manifestent leurs différences sur des opinions. Et puis des fois, malheureusement, on le connaît parmi nous, par ces opinions, ces différences d'opinions peuvent amener de l'amertume, voire de la bagarre. Alors, est-ce que mon opinion est équivalente à la parole de Dieu? Quand je parle d'opinion, je parle pas de doctrine. Je parle de ma manière d'interpréter tel ou tel verset, sachant que ma manière d'interpréter est liée à mon éducation, à mes lectures, à ma façon de vivre ou de comprendre la Bible, etc. Beaucoup de choses qui sont totalement subjectives et qui n'ont rien à faire avec Dieu. Donc mon opinion est différente de la doctrine biblique établie par la Bible. Est-ce que je méprise celui qui n'a pas les mêmes opinions que moi? Comment est-ce que je me comporte pour quelqu'un qui, un chrétien fidèle qui, par exemple, est amillénariste, qui pense que le millénium n'a pas lieu d'être? Comment est-ce que je vais me comporter par rapport à lui? C'est pourtant quelque chose d'important dans notre façon de comprendre la Bible. C'est même une doctrine importante concernant l'eschatologie. Comment est-ce que je vais vivre par rapport à ce chrétien ou un autre qui pourrait avoir des positions différentes sur le salut, sur la vie chrétienne? Est-ce que je vais le mépriser ou simplement l'écouter, l'aimer comme les épîtres? L'Évangile nous appelle à le faire pour tout frère, pour toute sœur, enfant de Dieu. Est-ce que les rituels remplacent ma soumission à Dieu? On a tous des traditions, des habitudes. Alors, je ne dis pas que les traditions et les habitudes sont mauvaises en soi, c'est juste d'avoir un certain ordre dans notre manière de faire, que ce soit dans la famille, dans la vie personnelle ou dans l'assemblée aussi. Mais est-ce que parfois ces traditions, ces habitudes, ne remplace pas en fait la voix de Dieu? Est-ce que parfois je m'accroche pas trop souvent à des habitudes pour éviter de m'interroger par rapport à ce que je vis devant Dieu? Et les habitudes, les traditions peuvent aussi avoir ce mauvais effet de nous cacher ce que Dieu veut nous dire. Il n'arrive plus à crier assez fort pour que on puisse entendre. Est-ce que je suis le seul en charge de ma vie? Comment est-ce que je gère ma vie, que ce soit ma vie affective, ma vie professionnelle, ma vie de tous les jours, les choix que l'on doit faire constamment? Quelle est la place de Dieu dans ma vie par rapport à ses choix, par rapport à ma façon de vivre? C'est des questions que je me pose personnellement aussi. Hein. C'est pas, je suis pas en train de, comme Saül, qui essaie de chercher le mal chez le peuple. C'est pas du tout mon intention. C'est des questions que je me pose pour moi-même. Et je vous les soumets à vous-même. Chacun peut se poser des questions pour lui-même. Est-ce que j'utilise parfois Dieu pour faire ma volonté? Ou est-ce que je laisse Dieu m'utiliser pour faire sa volonté? Ça, c'est aussi dans le monde chrétien, une tendance aussi d'utiliser Dieu pour faire notre propre volonté, notamment dans tout ce qui concerne l'évangile de la prospérité, par exemple, dont on a parlé dans les précédentes réunions. Est-ce que je prends de mauvaises décisions? Est-ce que je manque de sagesse spirituelle? Est-ce que je me rends compte que les décisions que j'ai prises me mènent droit dans le mur? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est avec la lecture de la Bible qu'on va pouvoir aussi répondre à la plupart de ces questions. C'est aussi en se soumettant à Dieu. Sans soumission à l'autorité de Dieu, notre marche chrétienne sera entachée de difficultés, comme chez Saül. Nous serons remplis de confusion si nous ne nous soumettons pas à l'autorité de Dieu. Et si nous obéissons et nous soumettons à Dieu, alors on peut appliquer ce verset de Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur ce long passage de 1 Samuel 14. Je prie simplement que la parole de Dieu continue de nous corriger, chacun pour soi, de nous enseigner, pour qu'on puisse servir notre Dieu comme de fidèles serviteurs, comme la Bible nous appelle.